Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, on est en direct dans le Mac de l'Immo comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, vendredi 29 mars, c'est le vendredi saint, avant le week-end de Pâques, week-end de 3 jours j'espère aussi pour vous. On va bien se reposer en tout cas, on en a bien besoin. Bon, on est ensemble jusqu'à 9h30, Erwan Lemercier, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Mais bien, en pleine forme. J'ai hâte de manger des chocolats ce week-end.
Ah bah écoutez, un week-end de 3 jours avec des chocolats, je pense que c'est pas mal comme programme.
Ah ouais, c'est un bon programme, c'est vrai. Bon, mais avant le week-end, on va faire le point sur l'actualité immobilière, hein, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, que vous soyez locataire, propriétaire, cette émission est pour vous, si vous avez envie de devenir propriétaire aussi. Et puis à 8h45, nous aurons, comme chaque vendredi, une invitée pour le coup. Il s'agit de Dominique Boussuge, et avec elle, nous allons parler d'un sujet passionnant qui est l'état du bâti en France. Voilà, l'état des bâtiments. Vous savez qu'il y a eu de tristes actualités, hein, notamment avec des effondrements d'immeubles. Eh bien, on va discuter de ça avec Dominique Boussuge, puisqu'elle est présidente de l'Institut international des experts et des experts Vauban. Elle est pathologiste, experte technique et scientifique en ouvrages bâtis. Bref, elle a plein de casquettes. Elle est aussi professeure en école supérieure, conférencière, formatrice en France et à l'international. Donc voilà, très, 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 très intéressant ce sujet. Et puis on va parler ensemble, Erwan, pendant cette première partie des Jeux Olympiques. Vous allez nous dire comment louer son appartement.
Tout à fait.
Et voilà, faut pas faire n'importe quoi. On va parler aussi des annonces, de la nouvelle annonce des ministres de l'économie, de la transition écologique et du logement concernant les communes qui seront reclassées. Et puis nous allons parler aussi d'une escroquerie et nous découvrirons ensemble aussi une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Mais, eh bien, on peut dire que c'est parti pour le Mac de l'Immo.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Et on commence comme chaque semaine ce mag avec la revue de presse. Et aujourd'hui, nous allons vous donner des idées pour réduire vos charges de copropriété, de la vente magnifique appartement de Karl Lagerfeld. Et enfin, pour rester dans le thème de la fortune de la famille Kretz, que l'on peut suivre sur Netflix dans la série L'Agence. C'est parti pour la revue de presse, Erwan.
Alors avec l'inflation, la majeure partie des charges qui augmentent, quelques économies ne sont pas trop et peu importe justement son statut social. Les Échos a donc décidé de proposer quelques solutions pour alléger la facture des charges de copropriété. Alors soyez bien attentifs. Dans un premier point, il faut traquer les contrats inutiles. C'est un peu une chasse aux services que justement il y a pas mal de copropriétés. Donc il faut lire scrupuleusement et avec beaucoup d'attention chaque contrat afin de vérifier qu'il n'existe pas de doublons de prestations ou de services superflus. Par exemple, l'intérêt d'un contrat de maintenance pour une antenne collective à l'heure où la plupart des particuliers ils reçoivent la télévision grâce à leur box internet. Même chose par exemple pour ceux qui proposent des prestations de dépannage 24/24, 7 jours sur 7, à l'image des contrats d'ascenseur. Poursuit-il simplement parce qu'il y a des copropriétés qui souscrivent de peur que quelqu'un soit coincé tout le week-end dans la cabine. Et pourtant, il faut savoir que la loi elle prévoit une obligation de désincarcération des personnes bloquées à l'intérieur, quel que soit le moment de la journée. Le deuxième point, c'est la mise en concurrence des prestataires de services. Alors pour récupérer un marché, les entreprises, elles n'hésitent pas à faire des propositions tarifaires très agressives aux copropriétés. Mais une fois que l'affaire est faite, elles augmentent chaque année leur prix sur la base de l'indice de révision annuelle qui est prévu dans le contrat. Et c'est à ce moment-là qu'intervient l'importance de solliciter de nouvelles sociétés environ tous les 3 à 5 ans pour obtenir des devis et mettre ainsi la pression et donc faire jouer la concurrence sur le prestataire en place. La perspective de perdre un client peut en effet pousser à faire un geste commercial. Et puis après, il y a aussi la maîtrise et la réduction de la consommation énergétique. Alors cela va passer entre autres par l'ajustement des consignes de chauffe, comme l'expliquent les Échos, retarder la date de mise en route du chauffage à l'automne et avancer celle de son arrêt au printemps. Un petit chiffre quand même, 30% en 2023, c'est 30%, les charges de copropriété ont augmenté d'au moins 5% sans chauffage collectif et de plus de 30% pour celles équipées d'un chauffage collectif au gaz. La source, c'est l'association des responsables de copropriété et c'est une estimation qui date du 16 octobre 2023. En 4, il faut limiter le coût de l'assurance. Impossible d'y échapper, toutes les copropriétés sont tenues de souscrire une assurance multirisque immeuble, MRI. En revanche, rien ne les oblige à déclarer tous les sinistres dont elles sont victimes. Chaque déclaration va augmenter le taux de sinistralité sur lequel s'appuie l'assureur pour calculer le montant de leur cotisation. Faire l'impasse sur certaines garanties, comme la protection juridique, peut s'avérer pertinent dans une optique de maîtrise des coûts, tout comme le fait de ne pas opter systématiquement pour l'absence de franchise.
Et alors, ne pas laisser la copropriété se dégrader également.
Effectivement, problèmes électriques, dégâts des eaux, l'intervention en urgence d'une société le soir ou le week-end, voire même parfois en pleine journée, ça entraîne généralement une grosse majoration du tarif horaire pratiqué. Autrement dit, cela génère des frais supplémentaires qui viennent s'ajouter aux charges courantes de la copropriété. Donc parmi les erreurs qui peuvent coûter cher, il y a aussi le fait de décider de confier ses travaux d'entretien à une entreprise qui propose le tarif le moins élevé. Donc sur le coup, on se dit que c'est une bonne idée, sauf que le problème, il est très simple, et on peut être appelé à renouveler plus fréquemment ses dépenses d'entretien.
Allez, sixième et dernier point, rentabiliser les espaces perdus.
Tout à fait, parce qu'il y a énormément de copropriétés qui disposent de locaux ou d'espaces qui sont inutilisés. Et justement, c'est susceptible d'être loué ou d'être vendu. Mais si peu d'entre elles, elles osent sauter le pas, les recettes générées constituent pourtant une grande occasion pour réduire sans effort. Et donc, dans la durée, le montant de leurs charges, comme le souligne par exemple Olivier Principal, le président de la FNAIM Grand Paris aux Échos, un toit terrasse par exemple, ça peut être loué à une entreprise spécialisée pour installer des panneaux solaires ou une antenne relais.
Oui, c'était Olivier Principal, le président de la FNAIM Grand Paris. Cette fois, vous n'allez pas nous parler d'économie, mais de la vente record de l'appartement du célèbre couturier Karl Lagerfeld en début de semaine.
10 millions d'euros, voici le prix de vente de ce bien. Enfin, c'est plutôt 11,1 millions avec les frais. 260 mètres carrés, situé au troisième étage d'un immeuble au 17 quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de la capitale, composé de 3 pièces, dont une principale de 120 mètres carrés, un dressing de 50 mètres carrés et qui dispose également d'une magnifique vue sur la Seine et le Louvre. Voici les dimensions de l'appartement qui a accueilli le célèbre couturier durant les dernières années de sa vie jusqu'à son décès en 2019. Une vente plus que rapide, puisqu'il n'a fallu que 19 minutes pour que le bien trouve preneur. Les enchères avaient débuté à 5,3 millions d'euros, soit 20 700 euros le mètre carré. Un prix, on le précise, qui est déjà bien supérieur à celui du marché dans le secteur, pour finalement atteindre les 38 461 euros le mètre carré. En comparaison, je vous parlais la semaine dernière de la rue la plus chère de Paris, la rue de Fürstenberg dans le 6e à 24 272 euros pour un mètre carré. Au prix de cette vente, on est quasiment à 14 000 euros de plus. Et pour conclure, Thomas Jousselin, qui était le notaire associé à l'étude Artemis en chargé de la vente, a déclaré que c'était un bien hors norme, tant par sa localisation, par sa taille, que par la personnalité qui y vivait. Cependant, l'identité de l'acquéreur n'a pas encore été dévoilée.
Ah oui, c'est peut-être vous en fait, Erwan.
Bon, peut-être vous.
On reste dans le monde de l'immobilier de luxe, mais cette fois-ci, nous allons parler d'une agence française, pas comme les autres, on peut le dire, Kretz Family Real Estate.
Alors, c'est la aventure de la famille Kretz que vous pouvez peut-être suivre, ou vous avez peut-être déjà vous-même regardé, Bérénice.
Pas encore, mais je vais m'y mettre.
C'est sur Netflix, donc ça tombe bien, ça passionne toujours autant.
Oui, je suis abonnée.
Exactement, et en plus, ils vont sortir un livre qui s'appelle Bienvenue à l'agence, le 27 mars prochain. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt ce train de vie quotidien qu'en fait rêver plus d'un quand on allume la télé. Villa de luxe au Brésil et au Costa Rica, loft à Manhattan, somptueux Ara en France, les Kretz parcourent le monde pour vendre des biens immobiliers uniques en leur genre et destinés à une clientèle richissime.
Mais la question que tout le monde se pose est la suivante, à combien s'élève leur fortune ?
Écoutez Bérénice, pour tenter de répondre à cette question, je vais essayer de reprendre tous les éléments en ma possession. Les Kretz vendent de plus en plus de biens à des millions d'euros, de plus en plus à des clients de plus en plus fortunés. À combien s'élève-t-elle aujourd'hui leur fortune ? En 2022, Martin, l'aîné de la famille, avait dit ceci, ils avaient réalisé une centaine de ventes, soit à peu près 250 millions d'euros de valeur vendue, le double de 2021. Et après avoir vendu un bien, ils expliquent qu'ils touchent en moyenne une commission de 4% sur le prix de vente. Alors, si c'est un membre de la famille qui conclut une vente, nous partageons la commission. C'est un système qu'on a mis en place depuis des années, qui fonctionne super bien et qui, je pense, a évité pas mal d'engueulades, expliqué le deuxième frère, Valentin Kretz, aux Échos. Donc si les Kretz ont réellement touché une commission de 4% sur toutes leurs ventes, le chiffre d'affaires de leur agence doit s'élever à la modique somme de 10 millions d'euros. sur la base des ventes réalisées en 2022, une somme colossale mais pas vraiment surprenante quand on sait que la famille Kretz, par exemple, a vendu un bien valant 80 millions d'euros et ont donc touché la modique somme de 2,4 millions pour cette seule et unique vente.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, on est ensemble jusqu'à 9h30. Je vous rappelle qu'à 8h45, on recevra notre invité Dominique Boussuge. Petite réaction quand même sur cette revue de presse. Alors oui. C'est vrai que on a parlé de choses qui font rêver. L'appartement de Karl Lagerfeld, j'aimerais revenir dessus. 19 minutes, c'est ce que vous nous avez dit. Il est parti en 19 minutes.
Tout à fait.
Et franchement, alors je sais pas si on peut parler d'une bonne affaire parce que 38 000 euros par mètre carré, ça fait quand même cher. En tout cas, c'est vrai que l'appartement a été entièrement rénové par Karl Lagerfeld. Il y a des photos qui sont disponibles sur internet. Allez les voir. Alors moi personnellement, j'aime pas du tout. Ce qu'il a enlevé tout le côté justement raffiné et ancien. Maintenant, c'est devenu un espace ultra moderne. Je rappelle quand même que l'appartement date de 1694. Donc voilà, il a tout refait. Bye bye les moulures traditionnelles. Il y a désormais un faux plafond blanc avec des éclairages rétro, un sol en résine et béton gris qui doit très certainement recouvrir le parquet. C'est bien dommage.
Bah oui.
Donc voilà. Et puis il y a une, vous l'avez dit, hein, une chambre qui est séparée du salon par des panneaux de verre amovibles. Et puis une grande salle de bain avec une baignoire blanche. En revanche, la cuisine est toute petite. Est-ce que vous savez pourquoi, Erwan ?
Pas du tout.
Eh bien, parce que Karl préférait prendre ses repas à l'extérieur pour éviter les odeurs de cuisine. Voilà.
Dans plus de 200 mètres carrés, d'accord.
Ouais, vous savez, les odeurs, ça va vite. Hein. Mais voilà, et alors cet appartement, on dit qu'il était autrefois utilisé, entre autres, comme atelier de création par le couturier. Voilà, c'est ce qui a peut-être plu aussi à l'acquéreur.
Et est-ce que vous auriez mis une petite pièce sur cet appartement
Pas du tout. mais j'adore Chanel, Karl Lagerfeld, mais non, c'est voilà, j'aurais acheté autre chose avec pour ce prix-là.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, on est ensemble jusqu'à 9h30. Dans quelques instants, on parlera d'une étude, une étude Opinionway avec le groupe La Forêt, qui montre un petit peu d'espoir concernant le marché. Et puis, on parlera aussi des Jeux Olympiques avec vous, Erwan. Et on découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Mais tout de suite, on parle d'un événement. En fait, j'ai pas écrit, j'improvise.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai merdé.
La semaine dernière, Bérénice, vous étiez au CESE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Conseil économique, social et environnemental.
Oui, c'est dans le 16e. Erwan, avez-vous déjà été dans ce magnifique endroit ?
Bah, pas encore, mais j'espère vous accompagner la prochaine fois.
Eh bien, l'année prochaine, probablement. Là, on y était donc avec Radio Immo pour le 11e forum de l'immobilier organisé par la FNAIM du Grand Paris et l'UNIS du Grand Paris. C'était un après-midi d'échanges et de débats avec les professionnels de l'immobilier. Donc, il y avait des syndics, des administrateurs de biens. Et le thème, c'était le logement, priorité absolue de l'action publique. C'est vrai que c'était un bel événement. C'est la deuxième année consécutive que l'UNIS organise cet événement avec la FNAIM, parce qu'initialement, c'est un événement organisé par l'UNIS. Et donc là, c'était très intéressant, puisqu'il y avait des débats, donc je vous l'ai dit, tout l'après-midi, notamment avec des sénateurs, des députés, et puis également des notaires. Enfin, voilà, plein de personnalités qui ont débattu. Et il y a eu aussi le ministre du Logement, alors qui n'a pas pu venir, mais qui avait fait une vidéo, Guillaume Casbarian, une vidéo assez détaillée qui a été très appréciée. Donc voilà, on a fait pas mal d'interviews qui sont à retrouver sur radio.immo. Je vous invite à aller les écouter. Là, tout de suite, on écoute l'une d'entre elles. Il s'agit de l'interview de François-Emmanuel Borel, qui est président délégué de l'UNIS Grand Paris et Île-de-France. On l'écoute. Bienvenue sur Radio Immo, en direct du CESE, du Conseil économique, social et environnemental, pour ce 11e forum de l'immobilier organisé par l'UNIS Grand Paris Île-de-France et la FNAIM Grand Paris. J'ai le plaisir d'être avec François-Emmanuel Borel, un des présidents délégués justement de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Bonjour.
Bonsoir, belle année.
Alors, un petit mot peut-être pour cette journée qui se termine. Alors, ça se termine.
Voilà, 11e édition. Alors, pour avoir organisé chacune d'entre elles, celle-ci est à nouveau une réussite. Alors, toujours, ça se fait dans des délais qui sont très contraints, dans un contexte économique quand même qui est difficile, et on a bien évidemment essayer de minimiser au plus possible les dépenses. Pour autant, je pense que le résultat est très favorable. On n'a jamais eu autant de participants qui aient bien émargé. Donc, d'un point de vue opérationnel, je pense qu'on a été, pas mauvais. Après, c'est toujours faire rayonner nos deux syndicats et profiter de la puissance de l'un et l'autre. Ouais. En termes de communication, d'influence, et ça, on peut en être très satisfait.
Alors, vous l'avez dit, la période est compliquée, mais c'est vrai qu'on sent que les professionnels ont besoin de se retrouver. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne idée, en tout cas, de se regrouper. Ensemble, on est plus fort. Vous avez participé à une table ronde donc, sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui a été revu. Un petit mot peut-être sur ce qui s'est dit.
Oui, alors, tout d'abord, c'était essayer de retrouver confiance dans ces diagnostics. Il faut dire qu'on est quand même sur la troisième réforme en 3 ans. Donc bien évidemment, ça offre pas beaucoup de lisibilité. Les qualifications, il a été entendu par le gouvernement de diminuer celles-ci. Donc il y avait une petite inquiétude. Pour autant, on a besoin quand même de diagnostiqueurs, besoin d'avoir cette confiance. Et à ce titre-là, quand on voit que finalement, cette nouvelle réforme qui est en train de mettre en place prévoit une réduction du moins une mise en évaluation des notes sur les superficies jusqu'à 40 mètres carrés. En fait, on se rend compte avec la maquette qui a été fournie par l'ADEME, l'outil de simulation, qu'elle ne concernera pas les logements entre 30 et 40 mètres carrés. Mmh. En tout cas, l'impact est extrêmement minime. Donc là encore, ça vient un peu décrédibiliser la parole politique qui a été portée.
C'est encore un rétropédalage.
Alors qu'en fait, c'était 30. Ouais, autant annoncer 30, et auquel cas tout le monde garde sa crédibilité.
Mais c'est vrai qu'il y a des mauvaises surprises. Enfin,
Donc de ce point de vue-là, il faut toujours faire attention avec ces effets d'annonce, parce qu'en fait, finalement, il peut se retourner contre l'outil qu'on essaie de garantir. Mmh. Après, deuxième phénomène, et là... c'est la question de la décorrélation du DPE individuel vis-à-vis du DPE, on va dire, collectif. Plus récemment, Jacques Baudrier, l'adjoint à la mairie de Paris en charge du logement, a sollicité de Matignon qu'il modifie les dates à condition que la copropriété ait voté un plan pluriannuel de travaux. Ça semble assez logique maintenant quand même que ces deux notions puissent se corréler, et ça apporterait un correctif dans lequel finalement tout le monde sortirait gagnant.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, on arriverait à convaincre plus facilement les copropriétés de l'engager, et on pourrait ainsi informer les copropriétaires, mais déjà de la note qu'ils ont, et éventuellement eux-mêmes d'agir sur les copropriétaires qui seraient le plus affectés. Typiquement, un copropriétaire qui arrive avec une lettre G nous dit au niveau de la copropriété, mais agissez. Mais si la copropriété a une lettre E, bien évidemment, il faut que ce soit lui qui s'empare du problème plus que la copropriété. Enfin, tout ça doit corréler les différents intervenants. Nous sommes très satisfaits du travail que l'on peut accomplir avec les diagnostiqueurs. Je pense que les rouages aussi sont tout à fait bons. Quant à la dernière mention qu'on a pu faire, c'était concernant les sociétés et le RGE. Nous qui travaillons de concert avec la Fédération française du Grand Paris, aussi bien la FNAIM que l'UNIS du Grand Paris, en fait, bien évidemment, tous ces artisans n'ont pas eu de sollicitation au terme de leur première année d'accréditation. Donc ils se sont retrouvés en se disant que finalement ça allait continuer, mais en fait pas du tout. Et reconstituer tout un dossier, c'était à nouveau un pinceau pour eux.
C'est fastidieux.
Alors que là, on commence à envisager éventuellement d'avoir des durées un peu plus longues d'habilitation, ce qui serait quand même la moindre des choses quand on a fait déjà les premières démarches.
Je rappelle que RGE, donc, c'est reconnu garant de l'environnement, et il faut que l'entreprise soit RGE, labellisée RGE, pour obtenir les aides MaPrimeRénov, par exemple, entre autres. Pour terminer, en tout cas, c'est vrai que c'était des tables rondes très enrichissantes avec des parlementaires, des sénateurs, des députés. On a vu de nombreux professionnels du logement, de l'immobilier.
Comme je viens de dire Daniel Dubrac à l'instant, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'on est extrêmement sollicité pour être entendu dans les différentes commissions, que ce soit parlementaire, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ce qui à mon sens est plutôt inédit. Donc on peut s'en réjouir. Pour autant, vous savez qu'on a été très affecté par la notion de déverrouiller les syndics.
Oui.
Donc de ce point de vue-là, on voulait avoir un peu plus de terminologie. L'intervention de Guillaume Gasparian à l'instant est un peu plus claire et vient nous soulager un peu parce qu'il évoque plus les conditions d'exercice de vis-à-vis de la loi 65 plutôt que celle de 70, ce qui nous satisferait davantage, bien sûr.
Et je rappelle juste à nos auditeurs, donc déverrouiller les syndics, c'est ce qu'a prononcé Gabriel Attal lors de son discours de présentation de sa politique générale.
On a eu cette
voilà. Bon, il ne s'est pas étendu plus sur le sujet. Bon, merci beaucoup en tout cas, François-Emmanuel Borel.
Plaisir.
Et puis à très vite sur notre antenne.
Très bonne soirée, à bientôt.
Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
De retour dans le Mac de Limo, on est ensemble jusqu'à 9h30 comme chaque vendredi. Tout à l'heure, on va parler effondrement des bâtiments, état du bâti en France, avec notre invité Dominique Boussuge. Mais tout de suite, nous parlons de la dernière étude Opinion Way avec le groupe La Forêt. Dans cette étude, on constate une légère relance du marché immobilier. Les Français se montrent plus optimistes. On écoute Vincent Favreau.
Le groupe La Forêt et l'Institut Opinion Way viennent de publier une étude à propos du ressenti des Français sur le marché immobilier. En ce début d'année, les avis montrent que les Françaises et les Français sont davantage optimistes sur l'avenir du marché. Ainsi, 37% des répondants considèrent qu'il est plus facile d'acheter en ce début d'année 2024 qu'en 2023. Si en décembre dernier, 15% des personnes interrogées déclaraient avoir l'intention d'acheter un bien, ce pourcentage a augmenté, 19%, soit 4 points de plus, une marque d'optimisme. Autre signe intéressant, les taux d'intérêt sont moins regardés. Il y a encore quelques mois, les taux qui grimpaient sans cesse préoccupaient beaucoup les Français. Ces derniers ne voyaient qu'une fuite en avant chez les banques et les taux devenaient ainsi un frein à un possible projet immobilier. Et en ce début d'année, la tendance évolue. Selon le sondage d'Opinion Way pour La Forêt, près d'un sondé sur deux déclare que le niveau des taux n'aurait pas d'impact sur leur projet. Enfin, dernier engagement important qui touche particulièrement le secteur du neuf, l'investissement locatif reste attractif. En septembre 2023, 20% des Français déclaraient avoir l'intention d'investir à court terme dans l'immobilier locatif. Et ce projet intéresserait aussi les primo-accédants. 28% des sondés qui ne possèdent aucun bien immobilier pourraient en acheter un pour le louer au lieu d'y habiter, nous dit l'étude. Des Français donc qui se résignent ou s'habituent peut-être à cette conjoncture particulière d'un marché immobilier moins facile d'accès qu'auparavant. Peut-être le signe d'une stagnation qui pourrait permettre au marché de se stabiliser.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Dans quelques instants, on découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot, comme chaque semaine. Et on parlera effondrement des immeubles, état du bâti. Mais tout de suite, on parle d'un événement tant attendu qui commence le 26 juillet. Ce sont évidemment les Jeux Olympiques à Paris. Alors Erwan, on parle beaucoup des Jeux Olympiques parce que plein de Parisiens veulent louer leur appartement. Mais j'imagine que ça ne se fait pas n'importe comment.
Exactement. Alors si je peux, je vais essayer de vous apporter quelques clés, mais plutôt des modalités pour louer son logement durant les JO. En effet, plusieurs démarches et vérifications sont à accomplir avant de mettre son bien en location, même si ce n'est que pour la courte période des Jeux Olympiques. C'est en tout cas ce qu'explique Olivier Rosenfeld, conseiller des groupes Harvest et Premium, à nos confrères du Monde. Alors pour mettre en location votre appartement durant les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a plusieurs cas de figure selon le statut. Au-delà des loueurs traditionnels, il y a bon nombre de riverains qui souhaitent bien évidemment louer leur résidence principale. Et pour ce qui est de la sous-location, l'allocation par le locataire de l'appartement qui l'occupe, on le rappelle, l'accord du propriétaire est nécessaire et le montant sera plafonné à hauteur du loyer. Deuxième point, s'assurer que le règlement de copropriété, il autorise l'allocation saisonnière et dans tous les cas, procéder également à une déclaration d'activité au guichet unique pour obtenir un numéro sirène. Dans certaines villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, un numéro d'enregistrement en ligne est également requis pour publier une annonce. Par ailleurs, d'autres démarches sont nécessaires si vous occupez le logement au moins 8 mois par an, effectuer une déclaration préalable en mairie s'il n'y a pas eu d'enregistrement en ligne et obtenir le droit à un changement d'usage temporaire dans certains cas.
Et il faut également faire attention au régime micro-BIC ou BIC réel.
Tout à fait. Alors fiscalement, quand le bien constitue la résidence principale du loueur, les revenus sont exonérés si le produit de la location n'excède pas 760 euros par an. Sinon, ils sont imposables. alors là, deux régimes s'offrent à vous, le bénéfice industriel et commercial, BIC réel, et le micro-BIC, qui lui est une réforme du second et qui est actuellement examinée au Parlement. Côté assurance, il faut vérifier ce que prévoit son contrat multirisque habitation. Certaines compagnies prévoient des garanties opérationnelles, alors dans ce cas, n'oubliez pas de les informer de votre projet. Et concernant les assurances propriétaires non occupants, généralement, tous les types de locations sont prévus, mais mieux vaut toujours vérifier, comme le dit l'expression « prudence est mère de sûreté ». Et pour terminer, le bien reste soumis à la taxe foncière. La taxe d'habitation est seulement due si le bien constitue la résidence secondaire du loueur et qu'il s'en réserve la jouissance hors des périodes de location. La location meublée est donc imposable à la cotisation foncière des entreprises, mais celle-ci n'est pas due si le chiffre d'affaires est inférieur à 5000 euros ou si la résidence principale est louée en meublé de tourisme. Et les loyers ne sont en règle générale pas soumis à la TVA.
Et tiens, si vous avez des questions justement pour la location de votre appartement durant les Jeux Olympiques ou autres, n'hésitez pas à nous les envoyer sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, en message privé, on lit tous vos messages, ou même sur LinkedIn ou sur Twitter, on y répond.
Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.
Les ministres de l'économie, de la transition écologique et du logement ont annoncé un reclassement de 800 communes au titre du zonage ABC.
Et oui, alors en France, il faut savoir que les territoires où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement sont classés par zone. Alors le déséquilibre, on l'imagine bien, peut être plus ou moins important. Donc forcément, il y a plusieurs zones. A, B, c'est la première, c'est très 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 tendu. A, B1, B2 et C. C'est pas tendu du tout. Et Bruno Le Maire, donc vous l'avez dit, le ministre de l'économie, Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique et Guillaume Kasbarian, le ministre du logement, ont annoncé cette semaine le reclassement au titre du zonage, donc ABC, ce zonage-là, de plus de 800 communes dans un communiqué. Alors l'objectif, vous l'avez compris, c'est de tenter de répondre à la crise du logement, puisque les habitants de ces communes auront accès à des dispositifs pour, je cite, produire davantage de logements abordables en location ou en accession à la propriété. Donc, plus de 600 communes vont ainsi être considérées comme tendues. Concrètement, qu'est-ce que ça me permettra ? 1,8 millions de Français pourront avoir accès au prêt à taux zéro, le PTZ, pour un logement neuf, ou à des logements locatifs intermédiaires. Ce sont des logements dont le loyer sont 10 à 15% en dessous des prix de marché, grâce à des aides publiques, et qui ne peuvent être produits qu'en zone tendue. Et puis, dans les 200 autres communes, le niveau de tension sera augmenté, ce qui permettra un meilleur équilibre financier des projets. Alors, pour l'instant, aucune liste de communes n'a été communiquée. On ne sait pas quelles sont les communes concernées. Ça devrait être dévoilé d'ici juin.
Le Mac de l'Imo sur Radio Imo.
Et dans quelques instants, justement, on vous parlera en plus en détail du logement locatif intermédiaire. On découvrira une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Mais tout de suite, Erwan, on va parler escroquerie. Est-ce que vous vous êtes déjà fait escroquer ?
Non, pas encore.
Bon, j'espère que ça va pas vous arriver quand
je
même.
Je touche du bois.
Oui, voilà.
Et vous ?
Non plus. Après, moi, je suis légèrement parano, donc je pense que ça n'y arrivera pas. Enfin, je touche du bois aussi. Bon, en tout cas, France 2 a enquêté sur une escroquerie qui touche de plus en plus de Français et qui fait très mal. On en a déjà parlé sur notre antenne. C'est le détournement de l'apport personnel, donc pour un crédit immobilier, vous l'avez compris, par des fraudeurs aguerris. On écoute Vincent Favreau à ce sujet.
C'est une arnaque incroyable que livrent nos confrères de France 2 dans une enquête édifiante auquel il convient de faire beaucoup d'informations auprès de tous les réseaux possibles pour éviter qu'elles surviennent. Elle vise à détourner l'apport personnel des Françaises et des Français par l'usage d'un site internet frauduleux. Le fraudeur construit un site ressemblant comme deux gouttes d'eau au site de courtiers et banques françaises. De l'autre côté, les ménages souhaitant acheter un bien immobilier se renseignent pour obtenir un crédit. Ils tombent sur le site malveillant sans y voir malice et remplissent leurs coordonnées pour obtenir des informations et ce fameux crédit. Derrière, le fraudeur les rappelle et le piège se referme. Pour garantir le crédit mirobolant qu'il a réussi à obtenir, il convient de verser l'apport personnel du ménage sur un compte dès que possible, Une fois le virement effectué, l'arnaqueur disparaît, l'argent aussi, et les Français se retrouvent sans rien, avec un projet immobilier qui ne verra plus le jour, faute d'apport. Guillaume Autier, président de Meilleur Taux, témoigne sur France 2 en révélant que, comme d'autres entreprises, il constate plusieurs fois par semaine que de faux sites sont créés avec l'identité de Meilleur Taux. Dans ce cas-là, les procédures existent pour faire tomber le site, mais dit-il, parfois ça fonctionne très vite, parfois ça prend beaucoup plus de temps. Les autorités reconnaissent que l'escroquerie existe et ce n'est pas une petite échelle. La Banque de France a fait bloquer en 2023 1262 sites frauduleux et vient d'en ajouter 346 à cette liste noire. Dans une période où il est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit, il convient d'être bien vigilant aux interlocuteurs et de bien vérifier que l'on parle à un groupe stable et solide et pas à un arnaqueur qui a toutes les techniques, on le voit, pour faire craquer les ménages.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
De retour dans le Mac de l'Imo. Dans quelques instants, nous parlerons logement locatif intermédiaire, LLI. Et puis après, à 8h45, Dominique Boussuge sera avec nous. On va parler de l'état du bâti, puisqu'elle est présidente des experts et présidente de l'Institut international des experts et présidente des experts Vauban. Elle est pathologiste du bâti, c'est un peu une médecin, voilà, des bâtiments. Et on va parler risque d'effondrement avec elle, un sujet passionnant. Mais tout de suite, on accueille en plateau une start-up IMO, il s'agit de Colombage Cohabitation. On reçoit son fondateur, enfin Jean-Michel Royot reçoit son fondateur, qui est Jean-Baptiste Serrault. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Jean-Baptiste Serrault. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous ?
Eh bien super bien.
En pleine forme ?
En pleine forme.
Allez, on va attaquer notre petite interview à la découverte d'une nouvelle start-up. Et aujourd'hui la start-up s'appelle Colombage Cohabitation, c'est bien ça ?
Exactement.
Bon, alors quelle est votre promesse chez Colombage Cohabitation ?
Je dirais qu'on a deux promesses. La première, c'est d'offrir aux personnes âgées une alternative aux maisons de retraite, durables et pérennes, en leur permettant d'accueillir un jeune chez eux, dans leur chambre inoccupée. Et la deuxième promesse, c'est d'offrir une solution aux jeunes pour se loger de façon beaucoup moins chère en ville et de réaliser leurs études dans un cadre de sérénité.
Donc c'est ce qu'on peut appeler la cohabitation intergénérationnelle ?
Exactement.
C'est bien ça ?
Exactement.
Bon, bah écoutez, c'est extrêmement intéressant et puis forcément d'actualité, hein, qu'on soit... sur le sujet de la problématique du logement des jeunes, mais également l'isolement des personnes âgées. On souhaite qu'elles vieillissent le plus longtemps à leur domicile, puisqu'on sait que la suite est moins fun. Alors, on va vous donner une minute, top chrono, pour tout savoir. Comment ça marche, Jean-Baptiste ? Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir ? Ben, depuis quand votre start-up existe ? Combien vous êtes ? Quel est votre business model ? Enfin, tout ce que vous voulez nous raconter sur Colombage Cohabitation. Ok ?
Très bien.
Allez, c'est à vous. Top chrono.
Donc, Colombage Cohabitation, on est une start-up qui va bientôt fêter ses un an, dans moins d'un mois. Donc, on est aujourd'hui 7 collaborateurs. Notre objectif, donc, c'est de faire cohabiter des personnes âgées qui disposent d'une chambre inoccupée à leur domicile avec des jeunes, des étudiants qui cherchent à se loger, principalement dans les grandes villes, mais aussi parfois en ruralité. Notre entreprise, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc c'est avec un fonctionnement démocratique, une partie des bénéfices qui sont réalloués chaque année à notre développement. Donc on repose en fait sur un cadre légal de la loi Elan et de la loi Elan de 2018. Et donc notre entreprise aujourd'hui comporte plus de 150 cohabitations réalisées et on se positionne donc comme un acteur qui avec une certaine expérience. Les retraités, eux, ils bénéficient en fait d'un complément de revenus, de petits services, etc. Alors que le jeune, il a des conditions optimales pour faire ses études.
D'accord. Et donc concrètement, c'est une composante entre une partie en argent, du coup le loyer, et une partie en service pour aider dans le quotidien les personnes âgées.
Exactement.
En fait, alors ces services, c'est quoi par exemple ?
Alors, il y a toutes sortes de services. En fait, ça, c'est très relatif à chaque personne âgée. Les personnes âgées un peu plus jeunes vont plutôt nous demander des services informatiques. Elles souhaitent s'inclure numériquement, en fait, parler avec leurs proches. Alors que les personnes un peu plus âgées vont plus demander des tâches.
Réserver un billet de train.
Voilà, exactement. Voilà, ouais. Exactement. Et puis, il y en a même qui demandent des
grecs cours, en fait. Pour les personnes âgées d'accéder à tous ces services via le net. Et là, les jeunes, c'est assez magique.
Exactement. Et puis, aujourd'hui, même administrativement, en fait, on nous demande de faire beaucoup de choses en ligne. Donc, un jeune, souvent, sait bien se débrouiller et aide beaucoup de personnes âgées. Et deuxièmement, les personnes un peu plus âgées vont plutôt demander, donc de 85 ans et plus, vont plutôt demander des services pour porter des choses lourdes, parfois préparer un repas, etc. Mais je dirais qu'il y a 50% des services, en fait, qui sont plutôt une présence. Pour lutter contre la solitude, en fait. Ça peut être partager un dîner ensemble, cuisiner ensemble, faire une activité, aller au cinéma, etc. Et en fait, c'est ce qui est le plus beau là-dedans, c'est quand c'est une amitié qui se crée.
Bon, super. C'est extrêmement intéressant. Alors, pouvez-nous donner des... Alors, même si on a compris que la Colombage Cohabitation était une jeune start-up, une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques références?
Bien sûr.
Qui vous fait confiance?
Alors, on engage différents partenariats, d'un côté avec des universités. On a signé récemment avec Paris-Saclay, donc qui est une grosse université, donc qui nous apporte des jeunes, en fait.
Oui, c'est ça, ça va vous fournir les jeunes.
Et ensuite, on est en relation ou en partenariat avec d'autres structures, de façon plus ou moins formelle, qui font des services à la personne. Par exemple, on a l'ASAD, qui est une association parisienne qui dessert sur le plan du service à la personne à peu près 1000 personnes dans Paris. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est de proposer aux personnes âgées un espèce de pack avec d'un côté des services par des auxiliaires de vie pour les soins un peu difficiles et d'un autre côté, pour le côté plus humain, solitude, nous, d'apporter un jeune qui va permettre en fait aux personnes âgées d'avoir...
J'imagine qu'il y a aussi un certain nombre de collectivités qui sont intéressées par votre démarche.
Exactement, on est en relation avec beaucoup de mairies aussi parce que ça fait partie de leur plan d'urbanisme dans la ville de demain. D'essayer de construire quelque chose d'un peu inclusif et solidaire et d'aider les personnes seniors.
Alors dans les personnes qui vous font confiance aussi, on peut citer Station F et le programme Ville de Demain, c'est là où on s'est rencontrés.
Exactement, le programme Ville de Demain qui est un super programme qui nous offre la possibilité d'échanger avec d'autres startups qui sont un petit peu sur des créneaux aussi liés à l'habitat, etc., à l'immobilier.
Au mieux vivre ensemble.
Et puis, exactement, et ça offre des synergies assez incroyables.
Allez, on va saluer Flora et Nicolas qui débordent d'énergie pour aider les jeunes chefs d'entreprise.
Qui sont toujours là pour nous et qui font un boulot formidable.
Bon, super. Comment vous contactez Jean-Baptiste?
Alors, on peut nous contacter directement sur notre site colombage-cohabitation.fr. Et si vous êtes une personne senior, on a un numéro de téléphone dessus qui est réservé, que vous trouverez en haut à droite et qui permet aux personnes un peu plus âgées, qui ont peut-être pas la capacité de remplir tous nos formulaires, de nous appeler directement.
Ok, vous pouvez aussi contacter Jean-Baptiste Serrot, Seerot, sur LinkedIn.
Exactement.
Et ce fera un plaisir de vous répondre.
Exactement.
Écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste, bravo, félicitations pour votre engagement, pour le mieux vivre ensemble, où on fait cohabiter intelligemment des jeunes et des moins jeunes pour le bien de tous. Bravo, félicitations au nom de Radio Immo et au plaisir de vous accueillir dans peut-être un an pour que vous nous partagiez de nouveaux succès. À très bientôt Jean-Baptiste.
Merci beaucoup. Merci. Jean-Michel, à bientôt.
Le Mac de l'Immo sur Radio Immo.
Nous évoquons depuis le début de la matinale le logement locatif intermédiaire et le gouvernement a pour souhait d'accélérer son développement.
Et oui, en effet, ce souhait, alors rappelez-vous, il faisait partie du discours de politique générale à l'Assemblée nationale de Gabriel Attal qui avait clairement dit qu'il voulait faire évoluer le logement social pour qu'il réponde davantage aux classes moyennes délaissées, selon le Premier ministre. Eh bien c'est ça, le logement locatif intermédiaire, il s'adresse clairement aux classes moyennes, hein. C'est un prix de location, je vous l'ai dit tout à l'heure, maîtrisé, puisqu'il va de 15 à 20%, il est inférieur de 15 à 20% au prix du marché. En gros, le loyer d'un logement locatif intermédiaire est entre celui du logement social et celui des logements privés. Donc c'est une bonne solution pour ceux qui cherchent par exemple à se loger à proximité de leur emploi, à des prix abordables. Alors, il faut savoir qu'un pacte pour le logement intermédiaire a été signé la semaine dernière par les ministres Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian avec les partenaires sociaux d'Action Logement, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération des ESH, des entreprises sociales pour l'habitat, la Caisse des dépôts et France Assureur. Et l'objectif de ce pacte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de développer le logement locatif intermédiaire, dit LLI, en France, en finançant notamment la construction de 75 000 logements intermédiaires neufs et anciens d'ici 3 ans. Donc voilà, on voit que Gabriel Attal n'avait pas que des paroles. Voilà, maintenant c'est les actes.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.
Et oui, c'est la fin de cette première partie du Mac de l'Immo. Dominique Boussuge est arrivée. Elle s'installe tout doucement. On va parler entretien des bâtiments. On va parler risque d'effondrement avec elle, l'état du bâti en France et aussi à l'international. On a plein de questions pour elle. C'est un sujet passionnant. On va se quitter. Alors, dans quelques instants, on va écouter le premier choix musical de Dominique Boussuge. C'est Dalida, Mourir sur scène. Et puis, il y aura aussi le Flash Info. Erwan, on se dit à la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end ? Je rappelle que c'est vendredi saint, c'est un week-end.
Exactement.
De 3 jours.
Eh bien, écoutez, je vais rentrer chez mes parents et même si c'est pas très recommandé, je pense que je vais chercher quelques petits œufs. Qui seront un peu gros, j'espère.
Ah bah oui, pourquoi c'est pas recommandé ?
Il y en a beaucoup en général, parce que quand il y a toute la famille, que tout le monde amène un œuf ou deux, bah ça fait, on se retrouve avec 8 œufs dans la voiture à remonter, donc c'est un petit peu plus embêtant.
Il faut pas les manger tous le même jour. C'est ça la clé. Moi, je pars en Normandie. Pareil, en famille, chercher les œufs de Pâques dans le jardin.
Eh bien écoutez, j'essaierai de vous en ramener un la semaine prochaine si je ne les ai pas tous mangés.
C'est gentil. Bon, et bien en tout cas, merci Erwan Lemercier. On se retrouve dans quelques instants avec Dominique Boussuge sur Radio Immo.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.